Bonjour à tous. Nous sommes à quelques semaines de Pâques. Et la fête de Pâques a une résonance toute particulière, à la fois dans le monde chrétien, mais aussi dans le monde judaïque. Pour les Juifs, la place, le sens que Pâques représente est quelque chose de très très fort. Alors, dans une période de préparation à la Pâques, il me semblait intéressant de nous arrêter sur, j'ai envie de dire, les passages obligés qui existent dans la vie chrétienne. Alors, pourquoi les passages obligés? D'ailleurs, quand on met obligé, tout de suite, les Français réagissent, les auditeurs français disent quelque chose d'obligatoire, c'est forcément quelque chose de contraignant, donc il ne peut pas y avoir de passage obligé, obligatoire. Nous sommes des êtres libres, affranchis, on fait ce qu'on veut. Eh bien, non. Il y a dans la marche avec Dieu, dans cette relation qui est voulue par le Père, des passages qui sont obligatoires, obligés. Je vous en prendrai un, la croix. Peut-on être chrétien sans passer par la croix, sans découvrir le sens de la croix? Et il y a dans la vie chrétienne des passages obligés. Et Pâques, c'est une histoire de passage. Est-ce que vous avez réalisé cela? Pâques, c'est une histoire de passage. Vous savez ce que c'est qu'un passage? Un passage, c'est une phase transitoire pour aller d'une étape à une autre. Et le passage en tant que tel n'est pas un espace qu'il s'agit d'occuper, dans lequel on s'installe et on reste, même si certaines choses sont en nous et nous continuons notre route avec. Mais un passage, c'est un espace, une phase qui permet d'aller du temps que je vis aujourd'hui vers l'étape suivante de mon existence. Et dans la foi, il en va de même. Pâques, c'est une histoire de passage. Pourquoi? Parce que le mot Pâques, Pessah en hébreu, c'est passer outre, c'est passer par-dessus. Il y a des traductions plus modernes qui disent c'est aller à cloche-pied, passer par-dessus, un peu comme à la marelle, vous savez. Quand on jouait à la marelle, enfin aujourd'hui on joue aux jeux électroniques, on est loin de ça, mais quand j'étais enfant, on jouait à la marelle, lorsque le caillou tombait sur une case, il fallait sauter à cloche-pied par-dessus. Le passage par-dessus. Pas que c'est une histoire de passage. Un passage incontournable. C'est l'histoire de l'ange de la mort qui passe au-dessus. Et ce passage est indispensable. Passer du temps que je vis aujourd'hui vers l'étape suivante de mon existence en empruntant tous les passages, les étapes que Dieu me propose. Nous avons vécu de ces passages obligés dans notre vie. Nous avons vécu le passage du fœtus à l'enfant qui entre dans le monde, du bébé que nous étions, nous sommes devenus des enfants, puis des adolescents, puis des jeunes adultes, des adultes et des seniors. Il y en a au premier rang, et au deuxième rang, et au troisième rang. Et à chaque fois, nous avons eu ces étapes à franchir, ces passages à vivre. Alors j'utilise volontairement cette notion de passage obligé, car si nous pouvons choisir de ne pas emprunter certains passages que d'autres considèrent comme obligatoires, il en est qui ne peuvent pas être escamotés, évités, et il en va de même dans le chemin que nous avons à vivre avec le Seigneur. Il y a des passages obligatoires. Pâques, passer outre, passer par-dessus. C'est tout simplement le mot qui est utilisé par Moïse pour désigner ce temps où l'ange de la mort est passé au moment de la dixième plaie d'Égypte, au-dessus de l'Égypte, et où Dieu a dit, voilà, l'ange va passer. Pessah. Et ce passage-là va être une étape indispensable pour que vous soyez sauvés. Dans Exode 12, l'Éternel dit à Moïse que ce temps de Pâques doit être instauré, doit être célébré. Ce moment où l'ange de la mort passe au-dessus de l'Égypte doit être un moment qui est reconnu, fêté, célébré. Et il est dit au verset 11 de ce passage, « Voici comment vous mangerez ce repas de Pâques. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » C'est le passage de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus. Pessah, je passerai par-dessus. Et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Je passerai par-dessus. Le passage de l'ange de la mort au-dessus de l'Égypte, c'est un passage qui, pour Israël, a un sens particulier. Et j'ai envie de dire que si l'ange de la mort ne passait pas au-dessus de l'Égypte, si la mort ne passe pas et ne nous épargne pas, si la condamnation ne passe pas et que le sang sur les linteaux des portes de nos vies n'est pas présent, si un agneau innocent n'est pas sacrifié au jour du passage de la mort, quelle est la différence entre les enfants d'Égypte et nous-mêmes ? Quelle est dans ce texte la différence entre Israël et l'Égypte ? Il faut que l'ange de la mort passe pour dire « Le Dieu que nous connaissons est un Dieu de salut. » Dans ce récit de l'Exode, on voit Dieu qui dit « Je suis l'Éternel et je vais condamner tous les dieux de l'Égypte. Je vais donc dire qui est le Dieu véritable. Et quand je passerai, le seul signe qui vous préservera, c'est la présence du sang sur les linteaux de vos portes. » Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre nous qui sommes là et le monde qui nous entoure ? La présence du sang de Christ sur nos vies. Le fait que ce sang versé à Golgotha, sur la croix, nous pouvons dire aujourd'hui, ce sang-là est sur ma vie. L'ange de la mort peut passer. Le jugement de Dieu peut passer. Sa grâce est sur moi et me préserve de la mort. C'est un passage obligé. La tentation est grande de diluer le message de l'Évangile. La tentation est grande de le rendre acceptable intellectuellement, émotionnellement. Mais ce passage-là est obligé. Nul ne peut rentrer dans la présence de Dieu. Nul ne peut rentrer dans une relation de réconciliation avec Dieu s'il ne passe pas par ce passage obligatoire qu'est la croix. Comme Israël n'avait pas le choix que de sacrifier un agneau parfait et d'en apposer le sang sur les linteaux de ses portes. J'imagine le discours d'un juif au moment de ce passage de l'ange ou juste avant, et qui dirait à sa femme, « Tu sais, c'est un peu bête quand même de sacrifier un animal. Ça nous fait perdre quand même. En plus, il faut qu'il soit parfait, qu'il soit sans défaut. C'est quand même un manque à gagner. Faisons comme si. On se met au milieu des autres, et puis l'ange passera, et puis il épargnera les autres, et nous, on sera au milieu. » Ne sacrifions pas un animal pour rien. Mettons-nous sous le couvert du salut collectif des autres. Combien d'hommes et de femmes peuvent penser que parce qu'ils sont au milieu d'une église ou au milieu d'une société judéo-chrétienne, eh bien la relation avec Dieu est conclue, est effective. Je cite souvent ce temps que j'ai eu pendant de nombreuses années à l'école de soins infirmiers où nous étions invités en tant que représentants des grands mouvements religieux à expliquer ce que c'était que notre foi et comment nous pouvions accompagner les personnes en fin de vie à l'hôpital. Et il y avait, je passais toujours, je le dis, je le répète, pour certains je rabâche, mais je passais toujours après un représentant d'une église protestante et qui disait devant des infirmiers, des aides-soignants, à peu près une centaine, il disait ceci, il disait, bah, pour nous, en fait, notre conception, c'est qu'il n'y a pas d'enfer. Ou en tout cas, il y a un enfer, mais l'enfer est vide. Dieu est tellement amour qu'on ne peut pas imaginer qu'un Dieu d'amour puisse condamner éternellement des hommes et des femmes, des enfants de son royaume, de cette terre. Et moi, je passais derrière. Alors moi, je disais, je suis protestant. Nous croyons aussi dans la réalité de l'enfer, qui est la séparation avec Dieu. Et pour nous, l'enfer, il n'est pas vide. Il est rempli de tous ceux qui n'auront pas reçu la grâce et le salut qui se trouvent en Jésus-Christ. Et vous savez quoi ? Après, il y avait un débat avec les élèves infirmiers qui devaient accompagner les personnes sur leur lit de souffrance. Et ce qui les emballait bien, c'était cet enfer vide. Un Dieu tellement plein d'amour que finalement, de toute manière, quoi qu'on fasse, on était sauvés. On avait l'éternité avec lui. Jusqu'au moment où il y en a un qui levait la main. Et ça se reproduisait quasiment systématiquement, année après année. Il y en a un qui disait, moi je comprends bien cette idée-là, elle est bien sympathique, mais dites-moi, ça voudrait dire que là-haut, puisqu'il est dit que Jésus est parti pour préparer le royaume qui nous recevra, les maisons où nous serons, etc. Ça veut dire que mon voisin, au paradis, ça pourrait être Hitler. Et là, tout à coup, il disait, ah oui, le principe est intéressant, mais alors, qu'en est-il du choix de l'individu par rapport à Christ ? Où est le sang sur les linteaux ? Aujourd'hui, est-ce que nous sommes clairs sur ce passage obligé, obligatoire dans notre vie ? Je ne peux pas m'approcher de Dieu si je ne suis pas convaincu de la nécessité, de la réalité du sacrifice de Christ pour moi aujourd'hui. Dans l'Exode 12, il est dit que pour célébrer la fête de la Pâque, on prendra le sang de cet animal, on le mettra sur les deux poteaux, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alors, le verset 9, j'avais un ami qui était missionnaire et qui, il y a une trentaine d'années, m'expliquait, quand il était en Afrique, comment la cuisine se faisait, qui était un peu différente de la nôtre. Et on se disait, oui, nous, on est un petit peu différent dans notre manière de préparer certains plats. Mais alors là, celui-ci, écoutez bien, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes à main. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Moi, je prends la cuisse, s'il vous plaît. L'intérieur. C'est un détail dans l'Écriture, mais les détails dans l'Écriture disent quelque chose d'important. L'animal qui est sacrifié entièrement. Il n'y a rien qui est enlevé, retiré, pour qu'il nous soit agréable. Il est livré, tué, et rôti entièrement. Christ, est-il écrit dans les Philippiens, s'est donné entièrement. Je dirais que le terme grec fait penser à cette idée. Il s'est retourné, il a tout livré de ce qu'il était. Lui, le Fils de Dieu. C'est cela le sacrifice de la Pâque. C'est là la Pâque que nous avons. Le Fils de Dieu qui s'est donné entièrement. Pessah, un passage. Passage du jugement de Dieu, mais passage du jugement de Dieu avec cette possibilité de vivre la grâce. Il faut que le jugement de Dieu passe pour que cette grâce nous saute au visage, au cœur, à l'âme, en disant « Son sang est efficace pour me garder vivant ». À plus forte raison, donc, dit Paul, « Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de la colère. Premier passage obligé. Est-ce que nous voulons être de ceux qui disent « pas utile » ? Ce n'est pas un passage qui est obligatoire. Il suffit d'être gentil toute sa vie, de faire le bien. Je joue depuis quelques mois sur un jeu en ligne de quiz. J'aime beaucoup les quiz. Et puis, je communique avec certains joueurs. Et il y a une dame avec laquelle je communique, on échange. Et puis, on en est venu à parler de la foi. Donc, à travers un quiz, je parle de ma foi, de ma relation avec Dieu. Et puis, elle est interpellée. Et puis, elle me pose plein de questions. Donc, je passe plus de temps à lui témoigner de la place de Dieu dans ma vie que de répondre au quiz. Ça me prend beaucoup plus de temps. Et puis, le dernier message que j'ai eu il y a 2 jours, elle me disait, mais finalement, dans toute ta vie, tu t'es occupé des SDF, tu t'occupes des malades alcooliques dans ton travail, etc. T'es quelqu'un de parfait. Ça m'a fait plaisir qu'elle le pense. Moi, après, j'ai regardé, ma femme était à côté, j'ai pas osé le lui dire. Et puis après, je lui ai envoyé un message, j'ai dit non, je suis pas parfait, je suis plein de défauts, comme tout le monde. La seule chose qui me rende parfait, c'est ma relation à Dieu et la place que Christ a en moi. C'est la seule chose. Rien d'autre ne me sauvera. Ni le nombre de SDF que j'ai pu accompagner vers un logement ou de femmes alcooliques que j'ai pu accompagner dans les soins. Ce qui me sauve dans ma vie aujourd'hui, c'est le sang de Christ et la relation avec le Père. Le deuxième passage obligatoire, c'est le passage concerne Israël. Vous savez que quand ils ont mis le sang et que l'ange de la mort est passé, qu'est-ce qui s'est passé après ? Ils sont restés en Égypte, ils sont installés, ils ont ouvert des restaurants, voilà, ils ont ouvert des entreprises de tissus, ça s'appelait Le Sentier en Égypte. Non, ils ont pris toutes leurs affaires et ils sont sortis hors de l'Égypte. Être sauvé au bénéfice du salut, cela suppose que nous ne restons pas en Égypte. Vous imaginez le juif qui, une fois qu'il a vécu cette grâce, cette bénédiction de voir l'ange de la mort sauver le peuple d'Israël, mais condamner le péché. Vous imaginez le juif qui voit les autres qui préparent leurs bagages, dit « Oh non, mais maintenant, on est tranquille, on va rester là. » Eh, les choses sont réglées. T'imagines que les Égyptiens viennent nous chatouiller ? Est-ce qu'ils viennent de vivre ? Ah non, là, on peut rester tranquille en Égypte. On a été approuvé par Dieu, béni par Dieu. Et il en va du même, parfois, dans le monde chrétien. Je suis sauvé, mais je vais rester là où je suis, dans mon mode de vie, dans mon environnement, parfois même dans mes comportements. Or, il s'agit de quitter l'Égypte. Et de rentrer dans une vie nouvelle, dans une autre dimension, de répondre à l'appel de Dieu, de sortir de la maison de l'esclavage. Eh oui ! Que voudrait dire le fait de rester en Égypte alors que le salut a été attrapé, saisi, et est une réalité dans ma vie ? Demeurer dans son ancienne vie, continuer à travailler comme esclave pour le monde d'aujourd'hui, pour ses désirs, ses pulsions, ses envies. Se nourrir exclusivement de la nourriture de ce temps, du fruit du travail de ce monde, préférer la saveur de la nourriture de ce monde à la saveur de la nourriture qui nous vient de Dieu, demeurer sous la tutelle des chefs de ce monde, sous leur autorité, plutôt que d'entrer et d'accepter l'autorité de Dieu. Cela voudrait dire cela, rester en Égypte. Et combien d'hommes et de femmes qui saisissent le salut demeurent en Égypte. Combien parfois nous pouvons, nous aussi, être de ceux qui, dans certains domaines de leur vie, acceptent de demeurer en Égypte, dans la maison de l'esclavage. Toujours dans l'Exode, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Soukhot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. dans ma version Colombe, ma vieille Bible Colombe, qui est en pièces, il y a tout un ramassis de personnes les accompagnèrent. Je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé ce terme, un ramassis de personnes. Ce n'est pas très flatteur. Mais ça veut dire qu'en fait, le peuple d'Israël avait vécu un événement tellement important. Ce passage de l'ange de la mort, cette grâce sur leur vie, qu'il y en avait qui, tout autour, se sont dit, « Oh là, si eux s'en vont avec ce qu'ils ont vécu et avec ce Dieu-là, nous, on va avec !» Où sont les ramassis dans cette salle qui sont attirés ou ont été attirés par des chrétiens qui leur ont montré ce Dieu qu'ils vivaient et avec lequel ils avaient une relation jour après jour. Moi, je fais partie de ces ramassis. J'avais trois jeunes qui habitaient dans ma cage d'escalier HLM, dans la cité du Havre, et j'étais complètement paumé et désespéré. Et puis ces trois jeunes-là, je les voyais, mais ils étaient vivants, ils vivaient. Alors ils étaient en HLM, en cité comme moi, et dans des difficultés aussi, mais ils vivaient quelque chose de particulier. Il y avait une de ces jeunes filles qui s'appelait Sylvie, qui venait passer devant moi, alors que j'étais assis souvent sur les cages d'escalier en bas à regarder le temps passer. Et un jour, elle m'a dit, « Tu sais, si tu veux, tu peux venir dans notre église. Il y a un groupe de jeunes. Et dès que tu as 15 ans, viens, on t'invite. Et puis, tu pourras vivre des choses vraiment, vraiment fortes et sympas. » J'ai attendu d'avoir 15 ans. Et 15 ans, une semaine, je suis allé dans ce groupe de jeunes. Et là, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai regardé. Et j'ai vu des hommes et des femmes, des jeunes de mon âge, plus âgés aussi, qui vivaient la grâce de Dieu au quotidien. Je n'étais qu'un ramassis. Mais je me suis dit, je veux être avec. Je veux vivre ce qu'ils vivent. Est-ce que c'est comme cela que vous êtes rentré dans l'église ou que vous avez entendu parler de l'évangile et de Dieu? Cette étape-là, sortir de l'Égypte. J'étais toujours dans ma cité HLM, j'y suis resté encore quelques années, mais j'avais déjà quitté l'Égypte. Je suis rentré dans une autre dimension de vie, dans une autre espérance, dans un autre regard sur moi-même, sur le monde, sur la vie. J'ai dit, je sors d'Égypte. Je veux passer à autre chose. Le passage hors de l'Égypte, il est indispensable. Il y en a qui disent, non, je resterai. Je reste en Égypte. Je suis sauvé. J'ai plus qu'à attendre la fin, mais je reste en Égypte. Il y avait dans cette notion de préférer la nourriture du monde à celle de Dieu, quelque chose qu'on retrouve dans le parcours d'Israël. Vous vous rappelez, quand ils sont en train de quitter l'Égypte et ensuite de traverser des contrées un peu moins favorables, il y en a certains qui se disent « Ouais, mais écoute, quand on était en Égypte, bon, le travail était dur, le salaire était nul, on était esclaves, mais on mangeait bien quand même. La vie n'était pas si mauvaise. Et la tentation est grande. Et c'est une tentation que l'adversaire sait murmurer à notre oreille. Mais tu sais, l'exigence de la vie avec Christ, la consécration, la sanctification. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot, la sanctification. Je sais que parfois, ce n'est pas un mot qu'on aime entendre. Hein. Christ parle d'émondage. De choses qui doivent être ôtées, coupées. C'est tellement plus confortable qu'on était en Égypte. On nous demandait juste de construire des bâtiments, des pyramides, de faire des briques. On était mieux, la saveur de la vie était différente là-bas. On peut regretter parfois et se dire, restons là-bas. Mais le passage hors d'Égypte est un passage obligé. Est-ce que nous sommes prêts là aussi dans nos vies? Aujourd'hui, ce que Dieu nous dit, hein, c'est cela. Est-ce que tu veux avancer avec moi? Tu as ton salut, ok. Le sang sur les linteaux, c'est bon. Est-ce que tu es prêt à sortir d'Égypte dans tous les domaines de ta vie? Un autre passage qui est important, c'est le passage de la mer Rouge dans Exode 15. Alors, Exode 15, moi, je le lis volontiers. On l'a lu aussi particulièrement l'année dernière, puisque c'était un des textes qui servait à la célébration œcuménique, avec ce dernier verset du cantique que Moïse, Myriam aussi, a repris. « Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Le passage de la mer Rouge, le passage de l'ange de la mort, on pourrait dire presque que c'est la dimension spirituelle, cette réalité que Dieu a effacé le péché et la mort s'en est allée, pour ceux qui en sont au bénéfice. Et je me disais, est-ce que le passage de la mer Rouge, ce n'est pas le passage concret dans notre vie à autre chose, un passage vers une autre vie? On nous avait demandé, quand j'étais en cinquième, de choisir une scène de cinéma qui nous marquait ou qui nous interpellait ou nous impressionnait. Et moi, j'avais choisi, pour expliquer une scène de cinéma, et j'avais choisi, en fait, dans les 10 commandements avec Charlton Heston, la scène du passage de la mer Rouge. Et j'avais expliqué comment, avec un effet de miroir, etc., on est loin de George Lucas et de Star Wars, hein. C'était du bricolage, mais on voyait la mer s'ouvrir. Et pour moi, c'était quelque chose d'impressionnant. Il y avait ce passage de l'ancien vers le nouveau, de l'ancienne vie vers la nouvelle vie. Inconnu, certes, mais libre. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle, passer la mer Rouge de manière concrète. Autant le passage de l'ange de la mort, c'était le sang qui avait fait qu'ils étaient épargnés. Autant là, ils devaient se mettre debout. Lève-toi et marche. Rentre dans cette nouvelle dimension. Fais-le concrètement dans ta vie. Quels sont les pas que Dieu attend de toi? Quelles sont les mers rouges à traverser? Quels sont les passages que Dieu met devant toi en te disant, maintenant avance? Oui, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu me fais confiance? Et le cantique du chapitre 15 de l'Exode parle, célèbre un Dieu qui a libéré totalement. La scène que je trouve assez extraordinaire, et je l'avais expliqué, j'avais une bonne note à ce travail, j'étais fier, ça m'a marqué. J'avais expliqué qu'on voyait aussi cette scène, c'est qu'une fois que le peuple était passé, avec un effet de miroir, de trucage, la mer engloutissait les Égyptiens. Et c'est dans le cantique de l'Exode 15, une proclamation, ce Dieu qui libère engloutit aussi la puissance de l'adversaire. Et lorsque Jésus sur la croix dit « Tout est accompli », il dit la même chose. La mort a été engloutie par la vie. Le péché a été vaincu d'une manière totale, définitive, entière. Et dans le cantique d'Exode 15, c'est un peuple qui se dit, ce passage-là s'appuie sur cette réalité. L'adversaire est vaincu. Oh, ça n'empêchera pas les doutes du peuple d'Israël, les peurs, les craintes, l'envie de revenir en arrière. Mais l'eau s'est refermée. L'œuvre de Jésus-Christ est parfaite. L'adversaire est vaincu. Est-ce que nous avons, nous aussi, nos passages de la mer Rouge à poser en nous en termes de foi? C'est un passage obligé. Cette assurance que Dieu nous conduit vers quelque chose de nouveau, de plein, d'entier et de puissant. Est-ce que cette étape-là, ce passage obligé dans notre vie, dans notre foi, est posé? Il a englouti le cheval et son cavalier. C'est-à-dire que les puissances de l'adversaire ont été vaincues. Est-ce que c'est dans notre cœur et dans notre vie? Ou est-ce que nous avons encore cette idée, « Ah, oh, l'adversaire est quand même très puissant. Ah, oh, il est vraiment encore présent dans ma vie, dans ma famille, dans ma réalité quotidienne. » Ou bien est-ce que nous pouvons dire, « Oui, bien sûr, il est là. » Mais sa puissance est vaincue définitivement. Et c'est en Christ, préambule de l'Épître aux Éphésiens, en Christ que nous avons cette assurance et cette puissance en lui de proclamation. Il est vaincu. L'autre étape suivante, ou l'autre passage obligé, j'aime bien cette notion de passage obligé. On a évoqué le passage de l'ange de la mort, le sortir, passer hors d'Égypte, on a le passage de la mer Rouge, et puis il y a un autre passage. Alors, est-ce qu'il est obligatoire? Moi, je crois qu'il est obligatoire. Et dans la tradition rabbinique, l'interprétation de ce passage-là est considérée comme la naissance du peuple d'Israël. On peut supposer, pour nous qui avons un regard extérieur, que Israël devient le peuple, je dirais, élu au moment où il sort d'Égypte pour, dans le judaïsme, en fait, Israël naît au pied du Sinaï. Pas ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'au pied du Sinaï, Israël rencontre son Dieu. Israël est confronté à la révélation d'un Dieu qui parle. Ils ont été bénéficiaires de sa grâce et de son salut. Au pied du Sinaï, ils le rencontrent et Dieu leur parle. Lorsque la rencontre avec Dieu est une confrontation à sa parole, à ses commandements, alors on comprend que cette rencontre au Sinaï est une rencontre fondamentale. L'alliance pour Israël est celle du Sinaï. Quelle est notre alliance aujourd'hui? On pourrait se dire, ben, est-ce qu'il faut aller au Sinaï? Je sais qu'on a une famille qui vient ici, et les enfants ont tous pris leur baptême quasiment au Jourdain. Faut-il aller dans le Jourdain pour prendre son baptême? C'est une belle image, je trouve que si on peut, pourquoi pas? Est-ce qu'on a besoin d'aller au Sinaï pour avoir une révélation d'un Dieu qui parle? Notre Sinaï, c'est le prologue de l'évangile de Jean. Au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole a été Dieu. C'est par elle que tout a été fait. Et elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Notre Sinaï se trouve là, dans ce temps de rencontre et de révélation avec la parole de Dieu. Pas sur une montagne, en Israël, mais dans cette relation que nous pouvons avoir d'un Dieu qui me parle. J'ai découvert son salut. J'ai décidé de changer, de sortir de mon Égypte. Je décide de cultiver la relation à un Dieu qui me parle. Le Sinaï, pour moi, est là. Aux Juifs, Dieu disait, au chapitre 20, verset 1 de l'Exode, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et aujourd'hui, Christ dit, « Je suis la parole de vérité, la parole de vie. Je suis le chemin. » Est-ce que cette rencontre avec un Dieu qui se révèle en Jésus-Christ est quelque chose que je considère comme un passage obligé dans ma vie? Ou bien est-ce que c'est accessoire? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est Jean-Marc Taubois qui, dans un de ses livres, disait sa tristesse de voir l'abandon de la parole de Dieu dans les églises aujourd'hui. Qu'en est-il dans l'église de Kevin, sans parler des autres? Est-ce que la parole, ce Dieu qui me parle aussi au travers de sa parole, est un passage obligé? Parce que Dieu est un Dieu qui veut me parler. C'est merveilleux. Mais est-ce que je suis prêt à l'écouter? Pas simplement dans la prière, mais aussi au travers de sa parole, de me laisser rencontrer par la parole de Dieu. Le passage suivant n'est peut-être pas un passage obligé. Et pourtant, c'est très étrange, c'est que ça a été un passage pour Israël, et on le retrouve dans les évangiles, c'est le passage par le désert dont parlait Michel tout à l'heure. Pour Israël, c'est un passage qui a fait suite à la désobéissance. Quand ils sont rentrés dans la terre promise avec les 12 espions, ils sont revenus en disant « on a peur ». On a peur des géants, les Anakim qui sont là. Ils sont revenus avec des grappes de raisin. L'histoire dit que sur les portes du second temple, il y avait en fer martelé ou forgé des énormes grappes de raisin qui étaient représentées pour rappeler les espions revenant chargés avec une grappe portée à deux, pour dire que ce pays de promesse était un pays véritablement béni pour le peuple d'Israël. Et ils ont eu peur. C'est-à-dire que le cantique de l'Exode, chapitre 15, « Il a jeté dans la mer cheval et son cavalier », il l'avait oublié. J'ai oublié ce que Dieu a été capable de faire dans notre vie, dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai peur. C'est un rappel pour nous. Est-ce que tu te rappelles de ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie ? Aujourd'hui, tu peux être dans cette position de crainte, de peur, de doute. Et Dieu te dit, n'ai-je pas jeté cheval et cavalier dans les flots de la mer Rouge dans ta vie ? Est-ce que tu n'as pas constaté que j'ai été puissant, rempli d'amour pour toi, désireux de te sauver, de rétablir cette relation avec toi ? Est-ce que tu t'en rappelles ou est-ce que tu l'as oublié ? Moi, je dois avouer que parfois, Dieu me rappelle et me dit, mais souviens-toi. Souviens-toi, j'ai accompli cela dans ta vie. Il y a eu des expériences fortes. Il y a eu des révélations fortes, puissantes. Alors, je me dis, oui, c'est vrai, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir oublié. Ce n'est pas une question de doute. C'est parfois une question d'oubli. Mais pour entendre, encore faut-il se mettre aux pieds. Aux pieds de Christ, et j'ai envie de dire, aux pieds de la parole, pour que Dieu nous rappelle ce qu'il veut nous dire. Alors, le passage dans le désert, c'est un passage parfois obligé, dans le sens où, quand nous sommes hommes et femmes, parfois de désobéissance ou d'oubli, Dieu nous fait passer par des déserts pour nous dire, voilà, maintenant, toi et moi, face à face. Il n'y a plus rien qui va te perturber. C'est David Duplessis, vous savez, ce grand pasteur pentecôtiste du XXe siècle, qui était tellement occupé par une une méga-church, comme on dirait aujourd'hui, qu'il n'avait pas le temps d'écouter Dieu. Et puis Dieu vous dit, mais je voudrais vraiment te parler, j'ai besoin d'eux, c'était dans les années 50, j'ai vraiment le désir de prendre du temps avec toi, j'ai quelque chose à te dire pour les années qui viennent. Et David Duplessis disait, ben oui Seigneur, c'est vrai, mais il y a le travail dans l'église, il y a tous les membres à accueillir, il y a le conseil d'anciens, il y a les co-pasteurs, etc. Jusqu'au jour où il a eu un accident de voiture majeur qui l'a envoyé à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Et là, Dieu lui a dit, on peut parler maintenant ? Il y a des temps de désert que Dieu pose dans notre vie aussi pour dire, est-ce que je peux te parler maintenant ? Est-ce que c'est possible ? Jésus a été dans le désert. Alors lui, c'était une expérience qui était différente, pas liée à la désobéissance, mais aussi de dire qu'il y a parfois des temps de désert qui sont des temps, voilà, que Dieu pose dans notre vie afin que nous puissions aussi grandir, nous affermir face à la tentation, face à la présence de l'adversaire. Dieu ne nous dit pas que l'adversaire n'a plus aucun droit d'intervenir, mais dit voilà, il y a des temps de désert parfois où je suis là aussi pour te faire grandir. Alors, le désert, passage obligatoire, certainement quand on est dans la désobéissance, passage parfois que Dieu autorise ou permet. Et puis il y a le passage, le dernier passage sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est le passage du Jourdain. Ça, c'est un passage obligatoire. On est parti du passage de l'ange de la mort, Pessah. Je pense qu'il y a tous les passages que je viens de citer qui sont des passages sur lesquels nous devons nous questionner. Le passage du Jourdain, c'est investir les promesses de Dieu. Si, je dis bien si, nous avons vécu tous les autres passages, la confrontation avec Dieu, un Dieu qui se révèle au Sinaï, etc. Mais que devant les promesses de Dieu, on se dit, oui, bon, bah là, moi, je ne vais peut-être pas aller plus loin. Vous savez qu'il y a deux tribus, j'ai oublié leur nom, qui ont été dans cette attitude-là, qui ont dit à Moïse, tu sais, la terre promise, nous, elle est sympa, on est d'accord, c'est un principe qu'on reconnaît. Puis ils ont dit à Moïse, oui, mais nous, on préférait prendre les terres qui sont avant. Alors Moïse a dit, et ça s'est répercuté ensuite quand Josué est entré dans la terre promise, il a dit, ok, d'accord, vous aurez ces terres avant la terre promise, avant le Jourdain, à condition que vous accompagniez vos frères dans le combat pour s'emparer de la terre promise. J'aime beaucoup ce texte-là et ce récit. Parce qu'on peut être aussi, en tant que chrétien, tenté de dire, tes promesses, Seigneur, oui, elles sont valides, je les reconnais, c'est ce qu'il y a de meilleur, mais je préférerais quand même prendre le terrain qui est avant, tant qu'à faire, un petit peu comme Lot, sollicité par Abraham, qui regarde et dit, oh, mais tu sais, Abraham lui dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et l'autre regarde et il voit les plaines de Sodome et Gomorrhe. Il se dit, c'est quand même sympa. C'est pas mal, Sodome et Gomorrhe. Plaine fertile. Je sens que là, comme on pourrait dire de manière triviale, je vais me faire du blé. Et puis, on sait ce qu'il en est advenu. Pour les deux tribus qui ont choisi d'être en dehors de la terre promise, ce sont aussi les deux premières tribus qui ont été victimes des tribulations et des attaques de l'adversaire. Il faut passer le Jourdain dans nos vies personnelles, faire le pas, entrer dans les promesses de Dieu et ne pas se dire « Ouais, moi, maintenant, j'ai l'essentiel, j'écoute Dieu, je parle avec lui, etc. » Et quelles sont les promesses que Dieu a pour ta vie? Quelle est la terre promise que Dieu place devant toi en disant « Voilà le chemin que j'ai pour toi, pour ton existence, pour ta famille, pour ce qui est du devenir. » Lorsque on a cela, on se dit « Oui, mais vous rappelez, 12 espions, ils nous avaient dit qu'il y avait de l'adversaire, des grands, des géants, etc. Comment on va réagir face à cela ?» Et puis, lorsque Josué rentre dans la terre promise, qui est-ce qui passe le premier ? Ce n'est pas Josué pour montrer l'exemple aux autres. Ce n'est pas la tribu, je dirais, la plus forte, la plus puissante. Non, c'est l'arche de l'Alliance qui passe de l'autre côté. Une manière de dire, Dieu nous précède dans l'entrée dans la terre promise. Il y a des vieux cantiques qui parlent de cela. Christ nous précédant, marchons, allons de l'avant. Vous vous rappelez, pour les plus anciens ? Je parle pour les plus anciens. Ou les enfants de pasteurs, ça marche aussi. Christ nous précédant. L'arche de l'Alliance, c'est la première. Et quand l'arche de l'Alliance rentre dans le Jourdain, qu'est-ce qui se passe ? À nouveau, l'eau s'écarte et il rentre à pied sec. Ça veut dire que la terre promise, même si elle semble séparer du monde ce que sont les promesses de Dieu, Dieu écarte l'eau. Quand les sacrificateurs mettent le pied dans le Jourdain, à ce moment-là, l'eau s'écarte. Il s'arrête au milieu du Jourdain et tout le peuple passe. Dieu nous précède dans la terre promise qu'il pose devant nous. Il n'y a pas de crainte et de peur à avoir. Faisons-lui confiance. Il marche devant nous, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau de l'Église aussi. Alors, j'ai envie de dire, c'est un passage obligé. C'est tellement dommage de ne pas rentrer dans les promesses de Dieu. J'ai plus de 40 ans de vie chrétienne, 45 ans, ou 46 ans, je ne sais plus. Une des plus grandes tristesses qu'on peut avoir, quand on a une grande, et je pense que Michel partage, ou ceux qui ont un long parcours avec le Seigneur, peuvent le dire, une des plus grandes tristesses que l'on peut avoir, c'est quand tout au long de notre marche, on a vu des hommes et des femmes qui ne sont pas rentrés dans les promesses de Dieu, qui sont restés en arrière. Alors, quand on les regardait, on se disait, waouh, il y a en lui et en elle une telle promesse de fruits spirituels, une telle dimension. Je peux vous assurer, en 40 ans, et je pense que les couples pastoraux qui peuvent être là peuvent le dire aussi, pour un berger, quelle tristesse de voir un homme, une femme qui promettait tellement, qui était dans une dynamique, et s'arrêter. Moi, ça me ferait pleurer tellement ça. Ça m'attriste. Et je pense que le Père, je pense que Jésus est triste quand nous ne franchissons pas nos Jourdains pour entrer dans les promesses de Dieu. Qu'est-ce que tu attends ? J'ai peur. Je ne sais pas. J'hésite. J'ai envie, puis en même temps, je me sens tellement peut-être incapable, coupable. Il n'est pas trop tard pour passer le Jourdain. Et quand ils ont passé le Jourdain, ils prennent 12 pierres. Et ils posent ces pierres sur les rives du Jourdain, quand les eaux se referment en disant, c'est un mémorial pour vous rappeler que vous avez passé, que vous êtes de l'autre côté. Moi, j'aime bien me rappeler. J'ai mon mémorial intérieur sur le moment où j'ai passé mon Jourdain. Et quand parfois la tentation peut venir de dire, allez, je m'arrête, je ne vais pas plus loin dans la terre promise, je regarde mon mémorial. Il y a plein de pierres dans ma vie qui disent, rappelle-toi ce que j'ai fait, ce que j'ai été et ce que je veux être dans ton existence. Voilà les passages obligatoires, les passages obligés dans notre chemin avec Dieu qui se calent sur ce que le peuple d'Israël a vécu. Je souhaiterais vraiment que cette parole ce matin puisse, pour ceux qui sont peut-être encore restés en Égypte, ceux qui n'ont peut-être pas franchi la mer Rouge, ceux qui ne sont pas passés par le Sinaï, cette rencontre d'un Dieu qui parle, ceux qui ne sont pas allés de l'autre côté du Jourdain, concrètement dans ta vie, si le Seigneur te parle maintenant, eh bien, voilà. Laisse-toi interpeller par le Saint-Esprit. Laisse-toi interpeller par le Saint-Esprit pour aller plus loin avec lui. Ce n'est pas une question de rite, d'habitude. Laisse-toi interpeller par le Saint-Esprit. Il y a une chanson qui dit, que je chante beaucoup avec les patients de l'établissement, qui dit, le meilleur est devant toi. En Christ, je le crois. Merci Seigneur de faire retentir ta parole dans mon cœur, dans nos cœurs. Que nous puissions simplement, comme le peuple d'Israël, franchir tous ces passages, nous les approprier, les faire nôtres, pour faire les pas qui vont derrière. Donne-nous, Seigneur, de rentrer dans ce pays de promesses, dans cette vie de promesses qui se trouve en toi pour chacun d'entre nous. Garde-nous, Seigneur, de rester en arrière, de laisser la peur ou même l'indifférence ou le goût des choses de ce monde nous empêcher d'entrer dans les plans que tu as pour chacune de nos vies. Amen.